Très bien. Laetitia Gaillet reviendra évidemment tout à l'heure pour vous informer. Merci Laetitia.
Et de rien.
Avec, j'espère, Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour.
Salut.
Non, elle est là, Leïla. Cadignan, Guillermo Guillouze, Daniel Morin, Tanguy Passureau et notre invité Angèle.
Je me suis pincée en d'encre.
Encore bloqué dans cet ascenseur. Hein.
C'est incroyable, j'ai fait des rencontres.
Dingue, réparer,
j'ai eu la peur de ma vie.
Dis donc.
On est habillés
pareil. Mais on aurait dû, on aurait dû mettre la lumière avant de venir.
On peut leur dire.
On a le même pull, voilà. On va leur dire.
Et vous êtes dans le même pantalon, c'est gênant. C'est hyper gênant.
Remarquez, chacun rentre dans une jambe.
Et vous, j'ai du mal. Et vous, votre mercredi.
Super.
Notre invité aujourd'hui.
Bruxelles.
En Bruxelles, elle est là. Bonjour, comment ? Ah, Nagui avait oublié son sac à main.
J'ai surtout oublié mon conducteur, si tu veux, Kétan. Moi, c'est un petit côté Bernadette Chirac, si tu veux.
Mais tu as un côté Bernadette.
C'est vrai que c'est une jolie ville, Guillermo, Bruxelles.
Absolument, je trouve qu'elle en parle très bien.
Ah, c'est vrai ?
Ouais.
Et t'as ce petit sentiment aussi, comme elle le dit dans la chanson d'ailleurs, de quand tu n'y es pas, il y a un truc qui te manque.
Ah, bien sûr, sinon.
Tu peux pas rester trop longtemps loin de Bruxelles ?
Ça fait 6 ans que je bosse à Paris.
De toute façon, il a un bracelet électronique, il peut pas s'éloigner trop. Hein.
Et 6 ans, et 6 ans qu'on me demande, tu vis pas à Paris ? Pourquoi tu vis pas à Paris ? Bah non.
C'est trop cher.
C'est ma ville,
c'est trop cher.
Parce que c'est cher.
D'accord, non, mais faut dire que t'es entrepreneur aussi à Bruxelles. Faut dire que t'as des cinémas.
T'as des maisons de passe.
T'as des sex shops.
De boucherie chevaline, quand même. Ce qui est quand même pas assez rare.
Que t'as appelé chez Nagui, en plus, c'est un peu moyen.
Excellente qualité.
Avec une faute d'orthographe, c'est ça qui est gênant, en plus.
J'ai mon chenil.
Que tu as appelé chez Nagui aussi.
En fait, moi, je suis le relais de Nagui à Bruxelles. En fait,
c'est ça. Un petit peu, hein.
Alors, relais Nagui, c'est ce qu'il va faire sur les autoroutes. On va jouer avant d'accueillir Angèle pour parler de son nouvel album. On va jouer avec quoi ?
Mesdames et messieurs,
Morgane,
c'est en 1990, mais c'est qui chante ça ?
Non, mais je vais accepter. C'est Jean Leloup.
Ah,
qui ça ?
Leloup.
Jean Leloup.
Elle était hyper bien cette chanson.
Bah, elle est toujours.
Rien à voir avec Michel Fugain.
Non, c'est les années 90, quoi.
Pourquoi ? Alors, parce que années 90 ?
84. C'était sorti en 84.
Non.
Parce qu'elle a 25 ans.
90, c'est pas
non, un titre,
90.
Un titre.
Ah,
les titres avec les années 90.
Avec les années, tout simplement, non ?
Ouais.
Qui chante ça ?
Jane Birkin, Morgan.
Non.
Ah non, je sais, c'est James Morrison.
Joli.
C'est qui ?
James Blunt.
T'as dit James Morrison.
Aujourd'hui, c'est son jour. Donc,
pourquoi c'est son jour?
Parce que jamais Angèle serait venue si Guillermo était pas là.
Non, c'est faux.
C'est un plan de carrière. C'est organisé depuis des années.
On a négocié d'ailleurs. J'ai dit, est-ce que je peux quand même venir ?
Moi, je vous ai eu Bruno solo, personne n'en parle. Zut.
Je t'embrasse, Bruno. Qui chante ça ?
Guy, Prince.
Joli.
On laisse gagner. À mon avis,
ça nous fait plaisir.
Mais non. L'invité et les réponses.
On ira au paradis.
Quand on ne met pas de la variété française des années 70, je suis avec. Quoi, je joue avec.
Un peu de respect, monsieur, pour Joe Dassin. 1999.
C'est Joe Dassin, ça ?
Pourquoi ? Parce que l'album d'Angèle s'appelle
1995.
Ça veut dire 95.
Non, 95.
Et
alors comment on dit 85 ?
85. 85 aussi.
Et comment on joue avec l'année 90 du coup ?
Parce que 85, je crois que c'est en Suisse qu'on dit.
C'est pas comme si vous découvrez la Belgique, quoi.
Bah
on est à côté depuis longtemps.
Non, c'est 8 ans. En Suisse, c'est 80. C'est 80 en Suisse.
Merci Alicia.
Non, 95 étant l'année de naissance d'Angèle. C'est pour ça qu'elle a donné ce titre à cet album.
Comme explication.
Mais oui, qui chante ça ?
Daniel.
Ouais.
Annie Lennox.
Oui, enfin, et qui ?
Eurythmics.
Dave, Eurythmics.
Ouais, c'est ça. Sex Crime.
Pardon. 84.
Exact. 1984. George Orwell.
Allez, naissance d'Annie Lennox.
Non, George Orwell.
Big Brother. C'est la même personne.
Big Brother is watching you.
Absolument. Je me...
C'est pas là, Leïla, c'est là et là, à droite et gauche.
Sex crime.
Qui chante ça?
Celles qui ont vu.
Ah, Leïla?
Oui.
Vincent Delerm?
Oui.
Delerm? Je commence avec Delerm, moi.
En fait, faut pas dire A, faut dire son prénom.
Elle donne les lettres de son prénom. La 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 la. 1973 pour Delerm, mais qui chante ça?
Kaki! Smashing Pumpkins.
Oui, Smashing Pumpkins.
C'est vieux,
Vitesse du gars.
Ouais, c'est un super titre, ça.
Ouais, j'adore. Ouais, je parlais de lire.
Alors, si vous trouvez le dernier, le Super Banco, franchement, vous allez me bluffer, filles et garçons.
Ah.
Sincèrement.
Bon.
Parce que j'adore la chanson, je pense que vous la connaissez. Non, mais de là à retrouver le nom du groupe. Faut s'accrocher, c'est un groupe déjà. Pour l'instant, Guillermo est en tête avec 4 points. Ouais. Leïla 1, Daniel 1, Morgan welcome.
Bah, ouais. Super Banco, Morgan.
Super Banco, c'est maintenant, ça vaut 5 points.
Ah, Guy, ah, oui. Murrayhead.
Ouais.
Quoi?
Non. Murrayhead.
Non.
Daniel.
Non.
74-75.
Oui, oui, c'est attends, c'est. Ah, je l'ai tellement.
Bah non.
Énorme succès.
C'est 74-75,
je suis d'accord, 74-75, ça c'est le titre, mais je veux savoir qui chante.
Demande-moi
la première lettre, s'il te plaît.
Première lettre,
The.
The.
Je connais tellement cette chanson.
Pouce.
C'est un énorme tube.
Pouce.
Ah oui.
C'est vrai.
Non mais dis-le.
Attends,
c'est... Donne-moi le premier après The.
Si, c'est bon. Non mais je l'ai, c'est guère.
Non, je l'ai pas, je l'ai pas.
Non, The Connells. 74, 75.
Mais tu gagnes quand même, hein.
Mais tu gagnes quand même. Guillermo gagne le blind test, un truc de ouf. Et merci d'accueillir Angèle.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Merci Angèle d'avoir accepté de venir dans l'émission de Guillermo Guise ou
bienvenue.
Bonjour. Je suis ravie.
Vous connaissez cet énergumène?
Pas du tout, je ne sais pas qui c'est.
Alors, j'ai pas eu l'occasion de lui dire avant qu'il y avait une cabale contre moi parce qu'on s'est pas vu dans les coulisses,
ah.
Mais c'est vrai que depuis très longtemps, ils ont l'impression que on est vraiment très amis. Et Nagui, il arrête pas de dire ça.
Ah, bah, nous, on est très amis.
On se connaît, on n'est pas regarde des séries ensemble.
Un mythe, c'est un gros mytho parce que nous il arrêtait pas. Il se bat avec des t-shirts.
Il se bat
avec des t-shirts Angèle, machin. Le mec il nous fait le mytho total.
C'est désamorcé.
En fait,
t'es très pote avec Laurence qui était. J'ai découvert Laurence en première partie.
Pour préciser qui est Laurence. Oui, Laurence, ma mère. Comme ça, tu prends un bon coup de vie.
La dernière fois, elle m'a présenté comme ça. Elle a dit c'est un pote.
C'est un pote de ma mère.
Elle m'a présenté comme ça. Tu dis ouais, c'est un pote de ma mère. C'est le plus grand coup de vie que j'ai pris de ma vie. 60 ans d'un coup, j'ai 7 cheveux gris qui sont
passés directement. C'était le deuxième coup de vue après travailler à France Inter. Et Laurence Bibeau était en première partie et ça pleurait de rire.
Et elle est sur France Inter aussi.
Mais pas chez moi. Tout ce qu'on ne sait pas ici, j'en parle pas. Voilà, moi c'est comme ça.
Rien. Non, mais elle était ta première partie en tout cas.
Bienvenue Angèle, on est ravis de vous accueillir.
Je suis ravie.
Surtout ravie pour ce nouvel album, cet excellent album. Alors évidemment, Bruxelles en est le premier extrait et premier succès. Mais moi j'ai le sentiment que le titre le plus emblématique, le plus représentatif en tout cas, ce que j'adore c'est qu'elle a un masque. Elle a un masque qui est meilleur que le nôtre, mais on le change pour lui donner un masque plus pourri.
Mais on parle mieux avec. Mais je pense qu'on m'entendra mieux comme ça, non?
Ouais.
Peut-être. Parce que moi j'ai un masque FFP2.
C'est ça, qui est beaucoup plus sérieux que le nôtre.
Et du coup je parle comme le Père Noël. Je parle comme le Père Noël, vous voyez quand il est sous la barbe en plastique comme ça.
Et donc je trouvais que l'album, la chanson qui était la plus représentative peut-être de cet album, il y avait Libre. Et plus de sens aussi.
Ouais.
Il me semblait que ces deux chansons-là reflétaient à la fois la liberté dans la création, dans l'écriture et dans les propos et même les paroles extrêmement personnelles et l'envie de sortir de ce confinement puisque l'album est né pendant le confinement.
Ouais, complètement. L'album est né pendant le confinement.
Tournée s'est arrêtée 2 semaines avant le confinement, je crois.
Ouais.
C'est pile.
Incroyable.
En termes de timing.
Ouais,
catastrophe.
C'est fou. Je pense que le dernier Bercy qu'on a fait,
non, c'est bien.
C'est la première fois que j'ai entendu parler du virus.
et qu'on entendait parler un peu comme si c'était un truc comme ça, très flou, qui n'existait pas. Et trois semaines plus tard, on était confinés, quoi. Donc c'est assez fou.
Ah, la tournée donc s'arrêtait pile, et le confinement est arrivé, d'accord.
Vous pensez que c'est lié?
Complètement. Complètement. 4 Bercy, je crois que c'est
un gros coup de blues.
4 Bercy, ça bloque la planète.
En plus, c'est terrible parce que je disais tout le temps à tout le monde, ouais, moi j'aimerais bien avoir du temps pour me reposer et pas avoir le
m'isoler.
FOMO, pas avoir la peur de rater quelque chose. Et moi, mon rêve, ce serait que tout le monde soit en pause en même temps que moi.
Mais non.
Et ouais, j'ai été entendue. Je suis désolée.
Et donc, oui, alors quand je dis plus de sens, c'est vrai que les paroles de cette chanson, c'est de se dire, finalement, on va y arriver, on va s'en sortir. Il y a un texte très positif.
En
deuxième couche.
C'est-à-dire que c'est un texte qui a vraiment été écrit il y a un an. Donc lors de la deuxième, troisième, une des nombreuses vagues qu'on a eues, et qui était en tout cas pour moi une des plus difficiles parce que c'était un peu genre c'est pas fini donc d'accord toujours pas et enfin moi mon métier il est quand même basé sur la rencontre avec le public et j'ai vraiment dû retrouver du sens à ma vie et à mon métier quand je me suis dit ok sans rencontre avec le public, pas de promesses pour l'instant. En tout cas, il y a un an, c'était plus compliqué de projeter des grandes salles. Et en fait, je trouvais que c'était vraiment nul, quoi. Je me disais, mais c'est ça notre vie maintenant. Et puis, évidemment, il y avait encore une lueur d'espoir et on garde espoir parce que voilà. Mais c'est sûr que ça témoigne d'un moment comme ça dans ma vie où je me suis demandé quel était le sens de ma vie et de mon métier.
Alors c'est pour ça que les textes sont plus intimes, plus personnels, plus proches. Et puis alors, faut dire que l'exercice du deuxième album, un premier album, on se dit, il y a 20 ans de réflexion, d'envie, de tempo qui naissent dans la tête et on va mettre ces 20 ans dans un album ne sachant pas s'il y en aura d'autres derrière. On met tout ce qu'on a et puis c'est pas pareil pour le deuxième.
C'est sûr, et puis le premier, il était plein de naïveté et aussi d'une insouciance géniale qu'on a à 20 ans quand on fait un premier album et qu'on s'attend pas à en vendre autant et avoir un succès pareil.
C'est l'insouciance de quoi? Du jugement des autres?
Ouais, de tout. Et puis du regard et puis de l'attente personnelle et puis de ce que ça représente parce que moi j'ai écrit des chansons et puis je les ai chantées devant des méga scènes et c'est plus possible après d'avoir cette même insouciance, même si on veut, même si on la cherche partout. Moi, je cherche cette entre guillemets naïveté que j'avais. Et je l'ai juste perdue. En même temps, après, j'ai 26 ans, donc tant mieux, parce que c'est bien aussi de grandir et d'anticiper un peu plus, etc. Et donc, c'est vrai que ce deuxième album, il a été vraiment plus teinté d'une période. Il est à l'image d'une période plus difficile, plus compliquée, et où on était beaucoup livrés à nous-mêmes, en fait, parce que beaucoup seuls, beaucoup enfermés.
Il y a eu quand même une espèce de baby blues après le succès incroyable, enfin pas incroyable parce qu'il est justifié, il est légitime, mais la proportion était dingue. C'est-à-dire que ce sont des milliers de personnes, ce sont des millions de vues, c'est surtout une identification d'une génération, c'est surtout une parole libérée, beaucoup de personnes se reconnaissent, et puis vous faites partie de cette génération qui, j'allais dire, est sans filtre, et dans tous les sens du terme, aussi bien au sens des photos que vous faites sur Insta, même avec des masques sur le visage, même en disant, est-ce que c'est sûr que le concombre appliqué avec l'aubergine qui sèche sur le front pour assainir la peau, est-ce qu'elle est sûre de la teuf? Il y a beaucoup d'autodérision d'ailleurs dans vos photos et dans vos posts Instagram pour démystifier un peu le côté chic Chanel. Non, mais il y a les deux. Il y a Chanel et il y a les masques.
C'est hyper important pour moi. C'est ce qui permet de rester, je trouve, dans un équilibre parce que c'est génial. Mon métier m'ouvre plein de portes. Effectivement, et gérer Chanel, c'est incroyable. Moi, je suis la première étonnée et j'adore parce que ça m'ouvre des visions sur un autre monde qu'est la mode et qu'est une autre forme d'esthétique.
Mais vous rendez compte de ce que vous leur apportez comme image justement de pop, de femme libre, de fraîcheur,
certainement,
et de jeunesse.
Tant mieux alors. Parce
c'est
que
fou, c'est gagnant-gagnant.
Tant mieux si ça peut... Enfin voilà, moi je le vois comme un échange aussi artistique, mais évidemment à côté de ça, ça m'empêche certainement pas d'être dans quelque chose de très très terre à terre le plus possible.
Et revenons au blues. Alors, il a existé ou pas ce blues, ce petit moment un peu de déprime comme Stromae l'a raconté aussi dans
Ben franchement, en plus pour en avoir parlé avec d'autres artistes, tout le monde m'avait prévenu et c'est pas faute d'être prévenu des trucs comme ça. En fait, la tournée c'est un moment incroyable. Et tout ce qu'il y a autour, mais je trouve que la tournée, c'est un truc où tu vis dans un bus avec des gens, t'es tout le temps en représentation. t'es dans une bulle en fait, t'es pas dans la réalité parce que, alors la réalité elle revient quand on revient chez nous le lundi matin ouais. jusqu'au mercredi, et puis dès le mercredi minuit, paf, on démarre et on sait qu'on a 4 jours devant nous où on travaille et c'est sérieux, mais il y a quelque chose d'assez magique, et c'est vrai que du jour au lendemain, arrêter ça, en plus, bah, pour être confiné à ce moment-là, il y a eu une sorte de gros choc, et en même temps, si je dois être totalement honnête, moi ce confinement, il a été le premier en tout cas, bah, ça a été une sorte de petit moment de respiration en fait. Et surtout, comme ce qui se passait dans le monde était terrible, j'avais beaucoup moins besoin en fait de me plaindre et de penser en mode ah, mais moi c'est tellement dur ce qui m'arrive, ma tournée est finie, parce qu'en fait
ça aurait été gênant, oui c'est sûr,
ça aurait été gênant et c'était pas le moment, enfin je veux dire j'y pensais même pas parce que c'était tellement terrible ce qui se passait. Donc, et donc du coup ça m'a remis un peu comme ça
sur vous, ça vous a recentré sur vous, vous avez replongé dans ouais, dans des cahiers intimes ouais. de votre enfance, et vous avez d'ailleurs vous êtes appuyé servi de ces cahiers d'enfance et de votre vécu intime pour écrire les chansons.
Ouais, en
je
fait,
pense, hein, parce qu'il y a des cauchemars d'enfants qui sortent. On se dit, elle les a vécues ces cauchemars d'enfants. Il y a eu des nuits
tout
plus...
ça est lié. Parce que c'est vrai que ces moments comme ça de confinement et de ouais, bah, je cherche un autre mot pour le confinement parce qu'on a tellement entendu ce mot, mais il n'y a pas d'autre mot.
Non, mais c'est de l'enfermement parce que
c'est encore plus dur enfermement.
Vous êtes retrouvé dans les cartons, vous avez fouillé dans votre vie pour ressortir. On le voit bien dans le doc d'ailleurs qui est passé sur Netflix pour ressortir. Même vous relisez les mots que vous écriviez en vous moquant un tout petit peu de vous au début, mais en retrouvant quand même quelque chose qui est vous.
Ouais. Et puis cette chance de pouvoir faire un documentaire, on a vraiment commencé à y penser lors du tout premier confinement. Et à se dire, bah, on a plein d'images, on a plein de trucs à raconter. Maintenant, comment on va le raconter, ça nous a pris quand même un an et demi parce que c'est beaucoup de travail, un documentaire. Ça a pas l'air comme ça parce qu'en fait, tout est servi sur un plateau puisque c'est des choses qui existent. On doit rien inventer, mais en fait, il y a 1000 façons de raconter une histoire. Clair. 1000 axes à choisir. Et puis, bah, il fallait aussi que moi je préserve ma vie. Je voulais bien raconter certaines choses. Et puis, qu'est-ce que je voulais bien raconter? Qu'est-ce que je voulais pas raconter? Qu'est-ce qui m'appartenait? Tout ça.
Mais tout ça a été. Vous avez libéré la parole, vous parlez de votre grand-mère, en passant par vos parents, évidemment à votre sexualité, à l'outing forcé, qui est un truc totalement dingue, à votre découverte. On va en reparler d'ailleurs sur la musique, le regard que vous jetez au moment du tournage du clip, je crois, avec Dua Lipa, et vous vous dites waouh. Et là, vous redevenez petite fille, vous redevenez spectatrice. Et en même temps, ça change sûrement quelque chose dans votre regard sur votre métier, sur la manière de le faire. On découvre aussi vos goûts, la manière dont vous avez grandi en écoutant Hélène Segarra, en écoutant Beyoncé, en écoutant Carla.
Mais vous ne dites pas tout par ailleurs. Vous avez commencé comme ça en disant on a essayé de préserver des choses. Alors qu'est-ce qu'on préserve
dans ce cas-là ? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit que vous avez dit aujourd'hui ?
Je vais tout vous dire maintenant.
Yes ! J'ai tenté.
Non, quand je dis que je dis pas tout, c'est que je ne montre pas tout et que en fait, il y a eu quand même beaucoup de contrôle et c'était nécessaire, même si il y a eu un lâcher prise, il y a quand même eu, évidemment, un contrôle quelque part parce que c'est Netflix.
Mais est-ce qu'on se dit pas on est hyper jeune pour faire un documentaire ? Est-ce qu'on n'a pas c'est pas vertigineux de se dire je fais un documentaire sur moi, j'ai 26 ans ?
Mais c'est alors à ce moment-là que je l'ai vu autrement, je me suis pas dit c'est un documentaire sur la grande carrière d'Angèle. C'est juste un documentaire sur, en 3 ans de vie, entre 22 et 25, il y a ça qui se passe. Ouais. Comment est-ce qu'on le vit quand on
parle d'un biopic à venir.
Ouais, exactement.
Et des adieux musicaux.
Et puis un best-of bientôt.
Sur l'album, le nouvel album, il n'y a plus le nouvel album. Tu me l'as coupé. Bon, on va l'écouter tout à l'heure. Très bien. On va tout de suite. Bah, nous, on vous adore, Angèle. On est ravis de vous accueillir. C'est pas le cas de tout le monde. Voici Morgane.
Ah, chouette, c'est un génial.
Allez, la teigne.
Non, mais toujours plus de Belges, quoi. Je suis désolée, mais moi, ça m'oppresse. Hein. Franchement, en plus, je suis entre les deux. Je veux pas sonner Rassemblement National, mais dans France Inter, arrêtez-moi si je me trompe, il y a France, quoi. Je comprends toujours pas pourquoi le hall de la maison de la radio, c'est pas encore un hangar à Thalys, quoi. Franchement, ça serait plus rapide pour tout le monde. Angèle, Guise, là, les deux, à midi et demi, ils descendent sur une barre de pompiers et zou, dans le train, direction la frontière, quoi. Attends, je suis passée de l'extrême droite au nazisme en une phrase.
Incroyable.
On dirait Dieudonné, quoi. Franchement, mardi prochain, ça part en en quenelle devant Isabelle Huppert, j'ai plus rien à faire. Bon, après, s'il y a bien une Belge dont on parle, Angèle, c'est vous. À moins que vous ayez passé les 10 dernières années avec Han Solo dans le caisson de carbonite, vous avez entendu Angèle au moins une fois. Bon, alors la blague d'avant, faut avoir vu Star Wars, sinon ça n'a aucun sens. Moi-même qui n'ai jamais regardé un de ses seuls films, c'est un petit peu flou. Guillermo, ça a du sens que je dis. Ouais, bon, je te demande ça à toi en même temps. Franchement, non, mais vous êtes dangereuse, Angèle. Votre dernier titre, il m'a même donné envie de vivre à Bruxelles. Putain, ouais. C'est dire si l'album est cool, parce que moi, il y a deux choses que je déteste dans la vie, vous le savez, c'est un, la pluie, deux, les gens aimables. Les gens trop sympas, c'est irritant. C'est irritant, c'est insupportable parce que t'es obligé d'être sympa en retour, mais quelle pression, quoi. Coucou, ça va, mais de quoi je me mêle, putain. Les gens sympas, c'est ceux qui fréquentent, vous savez, des cafés où on peut jouer à des jeux de société, parce que c'est une idée de quelqu'un qui s'appelle Jérôme, ça. Et Jérôme, il est sympa, il est directeur d'un escape game, c'est super sympa. Il est pas sympa, c'est un putain de sociopathe qui joue au Cranium à 17h en buvant un café, sinon quelqu'un qui porte les habits de sa mère pour aller se promener les soirs de pleine lune, quoi. Et les gens à Bruxelles sont relativement sympas. Ouais. Bon, et la pluie, j'aime pas, parce que si je veux être mouillée, bah, je prends un bain, ou je regarde une photo de Timothée Chalamet ou de Gérard Lanvin.
Oh non.
Mais j'ai des goûts à spectre large. Écoute, c'est de l'éclectisme.
Oh, je viens de comprendre.
Donc, à Paris, il pleut aussi, mais je peux compter sur mes petits connards pour que je me sente chez moi. Alors que Bruxelles, franchement, c'est vraiment la zone, quoi. Et les gens bousculent et ils disent pardon. Et vas-y, qu'on te propose une place assise si t'es enceinte dans les transports. Mais calmez-vous, les tarés, quoi. Plus sérieusement, j'ai regardé votre documentaire Netflix et je me suis dit que, waouh, ça doit être tellement lourd de vertige à porter toute cette notoriété si jeune et surtout d'un coup, ça doit être très spécial d'être reconnu dans la rue en permanence. Moi, ça arrive souvent que les gens m'apostrophent dans la rue, mais en général, c'est parce que j'ai rendez-vous avec eux et que j'arrive, quoi. Je vous jure, parfois, je dis à ma boulangère, j'aime beaucoup ce que vous faites juste pour qu'elle me réponde vous aussi. Ça va, franchement, Guillermo Daniel, qui n'a jamais lancé sa propre chronique sur YouTube bien fort dans une salle d'attente sans faire exprès? Franchement, parfois, mais c'est vrai, parfois les gens, ils font pas le lien entre la personne qu'ils entendent à la radio et la personne en culotte avec une lombalgie sur leur table d'examen. Faut les aider à faire un petit peu le lien. Je dis pas que je suis en mal de notoriété, mais c'est vrai que dans les soirées, chaque tu fais quoi dans la vie, bah, c'est un petit coup de couteau, quoi. Mais en fait, je peux comprendre que parfois ça soit un poil trop, même si vous avez tout bien géré, votre discours, il paraît toujours hyper maîtrisé. Puis si on écoute bien, un peu intensivement, presque tout est dit dans les chansons. Ouais. Il suffit donc d'acheter l'album ou d'aller vous voir en concert. Il y a pire comme de vivre à Bruxelles. Il paraît que les serveurs sourient. Moi, ça me dégueule.
Merci.
Et Morgan, tu seras sur scène ce vendredi à Bazancourt dans la Marne.
Complètement, oui.
Attention à toi. Ton jeu, je le connais déjà. Tu livres, ça ne changera pas. Oui, fais bien attention à toi.
C'est vrai qu'il y a ces chansons extrêmement pop, entraînantes, joyeuses. Il y a des chansons plus intimes. Il y a des chansons sur les violences. Violence d'un papa qui lève trop la main sur ses enfants.
Ou l'histoire que je raconte, justement, pas, mais il y a de ça aussi.
Tu seras un bon père si tu ne frappes pas tes enfants.
Ça, c'est par rapport au déni qu'on peut voir dans certaines histoires, mais c'est plus vraiment un homme violent avec sa compagne, sa femme, et qui aurait éventuellement des enfants ou pas encore, et que sa femme se dirait, mais de toute façon, tant qu'il touche pas les enfants, c'est un bon père, alors que. Bah, la violence, faut pas aller jusque-là pour être violent.
Et c'est
quoi.
Plusieurs fois la dernière fois, cette phrase-là. C'est la dernière fois, plusieurs fois, cette phrase-là, elle est dingue. Elle est dingue parce qu'elle est forte et elle correspond à tous les mots, tous les vices, que ce soit dans la drogue, dans la violence, ceux qui disent c'est la dernière fois et qui recommencent plusieurs fois, c'est une maladie, quoi.
Mais oui. Et puis, il y a cette chose, enfin, la fin aussi qui raconte qu'il y a aussi l'histoire que. La responsabilité est beaucoup mise sur les victimes et que parfois on se demande mais pourquoi elle reste comme si en fait c'était aussi simple que ça et puis je pense que y a l'idée aussi de se dire que je pense que en parler ça pourrait faire changer les choses et donc c'est ce que j'essaie de faire dans cette chanson déjà d'en parler en fait et de ne pas remettre la responsabilité en fait à la victime quoi.
Quand on nous met de côté en nous disant qu'on adore comme si ça pouvait changer nous mangeons encore plus fort jamais.
Alors c'est vrai, Morgane l'a dit tout à l'heure, on a le sentiment en écoutant l'album de vous connaître. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment de rentrer et de lire un journal intime.
Ouais. Bah oui, ça a toujours été un peu ça, parce que en fait, moi si je fais des chansons, c'est parce que j'aime la musique, mais si j'écris des textes, c'est parce que j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'avoir un exutoire, et qu'en fait, il s'avère que mettre les deux ensemble, ça me fait beaucoup de bien, donc écrire, composer, chanter, tout ça en même temps, ça fait des chansons. Mais à la base, ça vient de vraiment des besoins, chaque fois indépendants, quoi, que j'ai besoin de faire de la musique, mais j'ai aussi besoin d'exprimer des choses concrètes. Et j'ai toujours fait, j'ai toujours écrit dans des journaux intimes, sur des morceaux de papier, partout là je pouvais pour exprimer.
Et dessiner aussi.
Et dessiner aussi, mais ça, ouais, ça va ensemble quoi.
C'est l'art. Solo, rester solo, c'est fini pour moi, j'en ai plus les mots. Trop de peine, pas la peine, je me traîne, oh, à rester solo. Solo, rester solo, c'est... Ce titre-là est né d'abord du tempo, de la musique avant des paroles.
C'est une bonne question. Oui et non, parce que c'est toujours un peu un mélange. C'est-à-dire que le couplet avait déjà été écrit. Je l'avais déjà écrit.
En anglais.
En anglais, ouais.
J'avais déjà écrit. Alors, le refrain, j'avais écrit en anglais. Vous savez tout, coquin. J'avais écrit un refrain en anglais, effectivement. Et le couplet, j'avais déjà écrit de mon côté. Et puis cette chanson, ouais, on l'a vraiment construite bloc par bloc avec Tristan. Et puis c'est arrivé.
Qui réalise l'album, qui avait réalisé le premier et qui réalise celui-là. Là, solo, dire je suis bien seul, je n'aimerai plus et je suis tranquille. On en revient à votre vie privée qui a été violée, puisque quand on dit des choses sur une vie privée et qu'on n'est pas d'accord pour que ça soit dit,
vous l'avez exposé
et vous en parlez. Ouais, moi j'appelle ça un viol quand même, dès l'instant où les choses sont dites et qu'on n'a pas envie, ou que même la sa propre famille, ses propres amis n'ont pas été...
Viol, en ce moment, ça a des connotations un peu autres. Donc, je comprends la violence. Mais peut-être qu'Angèle va nous dire...
Oui, vous le vivez comment, d'ailleurs
Moi, je le vois comme un vol, en tout cas. Comme ma vie privée qui est volée. C'est sûr qu'il y a une question de consentement, parce que forcément, il y a toujours une limite floue entre quand on est un personnage public. Évidemment, on est aimé, et moi, je suis super reconnaissante de ça. Et comme moi, j'ai jamais trop compris au début que ma vie privée, en fait, il fallait la protéger, parce que j'ai pas compris la rapidité à laquelle c'est arrivé. Et puis oui, j'ai compris plus tard que, en fait, ma vie privée, il faut arriver à... C'est trop important de la garder, en tout cas pour moi. C'est trop important de pouvoir garder une part de vie privée, juste parce qu'en fait, sinon, on s'appartient plus. Et que de garder mes histoires d'amour le plus possible privées, c'est ça qui, je pense, peut sauver, parce qu'en fait, c'est des choses qui n'ont pas forcément besoin d'être exposés. Et j'avoue que j'ai écrit solo peut-être en disant « Et vous inquiétez pas, moi je suis seule, attention !» Non, 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 il n'y a rien à cacher. Mais c'est aussi parce que... Non, je parle aussi du fait d'être seule, en mode... Je trouve qu'il y a quelque chose... à 25 ans, on se dit « on est entre les deux, quoi. On n'est plus dans le truc amour-adolescent, mais on n'a pas non plus encore envie de se marier. » Enfin, moi, dans ma tête, c'est ça.
Prenez le temps. Franchement, le plus tard possible.
Il n'y a pas qu'à 25.
Guillermo
je pensais que dans Taxi, tu dis que tu parles beaucoup de ta vie privée, effectivement. Mais après, tu dis que tu t'en veux de l'avoir fait, quoi, tu vois. Est-ce que t'as parfois ce sentiment de dire « j'en ai trop dit » ou « j'en ai trop fait »
Oui, parce que c'est toujours délicat de trouver, et je suis encore en train de chercher le chemin, en fait, le bon ratio entre, je disais que c'était un exutoire d'écrire, parce que j'adore ça et j'ai besoin, moi, de, quand il y a quelque chose qui me pèse, je l'écris, et puis en fait, ça fait des jolies phrases, et puis en fait, ça fait des jolies chansons, et comme c'est mon métier, ça tombe bien. Mais après, je me dis, merde, en fait, je dis ça dans une chanson, donc en fait, ça donne accès à tout un tas de gens, à des choses qui sont dans mon cœur à la base. Et c'est là que j'arrive toujours à arrondir un peu les angles et changer un peu d'histoire pour pas qu'en fait tout soit directement lié à moi aussi, quoi.
Et là, justement, on est dans la dispute et on est dans le taxi.
Ouais. Très belle cette chanson, franchement.
Ouais.
Magnifique.
Ce soir dans un taxi, notre histoire m'a fait perdre la tête. J'aimerais te voir sourire, pourquoi je me sens si bête. Et même si c'est fini, si j'avais envie d'être honnête, quand je te vois souffrir, j'aimerais guérir.
Et puis il y a... Ce que j'adore dans cette chanson, c'est qu'il y a tout. D'abord, il y a un pur tempo, il y a Damso en guest. qui est extrêmement élégant, ce rappeur, parce que pour avoir été name droppé dans une de ses chansons, il y a eu un bad buzz sur internet où ça avait été mal compris parce qu'il avait dit j'en ai marre des racistes comme Nagui, et des gens avaient dit voilà, donc Nagui est raciste, Damso l'a dit.
C'est pas faux.
Et voilà. Et lui derrière, très élégamment sur ses réseaux sociaux, il a dit non, j'en ai marre des racistes comme Nagui, c'est-à-dire Nagui aussi en a marre des racistes, il a été victime du racisme, donc je suis comme lui,
machin. La ponctuation.
Et il aurait pu, très bien laisser, on se connaît pas, il aurait pu très bien laisser le bad buzz comme ça en disant je m'en fous, ça me concerne pas, mais il a eu cette élégance là. J'en profite pour le dire, et donc ce que j'aime, c'est que vous avez fait les premières scènes étaient en première partie de Damso, et vous l'avez accompagné au clavier, et vous avez souffert même le premier soir, premier concert, c'était extrêmement violent à votre égard. Là aussi, avec cette chanson et avec ses démons, comment s'en sortir avec ses démons, avec les haters aussi, avec les méprisants, les médisants sur les réseaux, tout y est quoi.
Ouais, c'est exactement ça. C'est les démons, ça peut regrouper en fait l'angoisse telle qu'on la voit.
Ouais, c'est ça, ouais.
Je pense qu'il y a plein de gens, leurs démons, ce sont des haters, ce sont des gens qui les harcèlent, ça peut être n'importe qui. Mais l'idée, c'est de s'en défaire, quoi. Et il y a peut-être des chemins de le faire. Moi, mon chemin, c'est la musique. Je crois que c'est là qu'on se rejoint avec Damso. C'est un peu ce qu'il raconte aussi. C'est que lui, sa façon de faire, c'est de rapper, de composer, d'écrire. Et c'est là que nous, on se rejoint. Mais je pense que tuer ses démons, ça veut aussi dire de pouvoir les identifier, de pouvoir comprendre pourquoi ça nous fait du mal, si c'est des angoisses, si c'est des gens extérieurs, si c'est des situations.
Et les médisants, on verra dans 10 ans. J'adore, ouais, j'adore cette ligne aussi. Et dans le derrière, je fais un don de mes gènes, ce qui est une manière extrêmement élégante de Damso de faire autre chose à propos des médisants. Mais j'adore ce côté.
J'apprécie cette volonté qu'il a eue de passer à la radio. Voilà. Oui.
Fais bien attention à toi. Ton jeu, je le connais déjà.
Bruxelles, je t'aime, et sur l'album 95 d'Angèle.
Je t'aime, tu m'as manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime.
Et cette histoire de couleur, Angèle.
De couleurs, ouais.
Chaque chanson
vous associez des couleurs au titre.
Qui vous a dit ça?
Vous, sans doute, vous avez dû le raconter quelque part.
Ouais. Oui, je vois les couleurs.
Ouais.
En fait, je...
Depuis longtemps, vous voyez des couleurs?
Alors oui, parce qu'en fait, je...
Ça manque de calcium, ça.
Non, je crois que c'est un nom.
Oui, c'est un nom, mais après, ça ne sert pas du tout. Quoi.
Synesthésie, je crois que c'est un nom.
Oui, mais je pense que eux, c'est des gens vraiment qui peuvent l'utiliser. Moi, ça ne sert à rien.
C'est la juste.
Même les notes, je les vois en couleur.
Génial.
Mais c'est quasiment toujours la même chose. Maintenant que j'y ai vraiment pensé, c'est toujours jaune. Bref. Mais oui, je vois les couleurs, je vois les chansons en couleur et je vois des lignes. Et pareil, je vois le temps passer aussi en couleur.
D'accord.
C'est bizarre tout ça.
Ok, vous faites des correspondances et vous faites aussi. D'accord, ok.
Ouais.
C'est joli. On va continuer évidemment de parler avec Angèle de son album et puis de la tournée aussi qui se prépare, parce que cette envie de renouer avec la scène, de se retrouver sur scène est bien présente. Vous serez à Reims le 20 avril prochain, puis Bordeaux, Toulouse, Poitiers, Marseille, Nice, Grenoble, le 16 mai à Bruxelles. Tiens, c'est complet, mais j'imagine qu'il y aura des dates rajoutées.
Il y en a qui ont déjà été rajoutées en décembre.
Parfait. Nantes le 18 mai à partir du 5 juin, en tout cas, vous serez au festival We Love Green à Paris. Puis il y aura Arras, Clermont, Albi, les Francopholies de La Rochelle, les Vieilles Charrues également à Carré. Puis Nîmes, Angers, Caen, Rouen, enfin c'est la totale. Et puis surtout, le 2 décembre, presque pour votre anniversaire.
Ouais.
Le 2 décembre à la Défense Arena à Paris. L'anniversaire important, puisque le cadeau d'anniversaire que vous nous avez fait, c'est la publication de cet album. Dit Bruxelles dans cette émission, dit Monsieur Guillermo Guy.
Ça va les amigos?
Oui.
Petit conseil série ce matin, conseil série.
Ça vaut la peine, hein. Il y a plus ou moins 13 Français sur 14 qui sont en quarantaine. Hein, pour l'un. Je suis plus utile avec mon conseil série qu'en faisant il m'est arrivé une péripétie, panne d'essence en plein Melun. Je tombe sur un routier, il me dit bonsoir, il était 14. Bon, conseil série, Euphoria. Euphoria,
c'est quoi?
Oui,
vous
série.
Avez Euphoria, quand même,
la
formidable.
Série,
saison 2 vient de démarrer, putain, c'est tellement bien. Alors pour mesurer le succès planétaire du truc, je vais vous donner quelques chiffres.
Putain, je suis passé à côté.
2, 6, 9, Ouais, flemme de trouver les vrais chiffres, honnêtement. Ceci dit, 2, 6, 9, tu peux les tenter à l'euro million aussi, tu vois. Et hop, un autre truc que j'apporte à l'auditeur en quarantaine, un conseil série, une aisance financière. Alors, vous me remercierez quand vous aurez tous acheté vos Magimix.
La classe.
Alors, de quoi ça parle, Euphoria? Ça parle d'adolescence, ça parle de rêve, ça parle d'identité, d'addiction, de sexe, de réseaux sociaux, mais aussi des nouvelles technologies dans le milieu de la prothèse de hanche. Alors, il y a un boom dans l'ergonomie, c'est souplesse, c'est fermeté. C'est pas vrai, mais j'essaie de garder nos auditeurs, tu vois, parce que je les ai perdus à adolescence. Tu vois, pour eux, je comprends, nos auditeurs, adolescence, c'est les Allemands, tu vois, c'est le rationnement, ils veulent pas se replonger dans l'époque, quoi. Donc, d'autant que c'est pas la première fois. Genre, lundi, j'étais dans mon lit, j'écoutais France Inter. Je sais que je suis pas obligé d'écouter France Inter,
non,
mais
c'est vrai.
J'ai toujours l'impression que si j'écoute Europe 1 ou Energy, je vais voir arriver Laurence Bloch à la fenêtre de ma chambre, mon Dieu. Harry Potter. Et me faire, non, en frappant sur la vitre avec ses vœux, je sais que je vais faire v'là les cauchemars. Du coup, je reste corporate. Et lundi, dans la matinale, j'entends Mathilde Serrel consacrer sa chronique à Euphoria. Et c'est toujours agréable d'entendre dire du bien d'un truc que toi t'adores. Tu vois, Daniel, il a ça avec Zemmour quand il parle de Pétain. Mais Daniel, il m'avait dit, ça me fait un bien. C'est vrai, parce que Zemmour, pour Daniel, Pétain, c'est pas qu'un modèle, c'est la mif, tu vois. Vraiment. Mais... Mathilde Serrel, elle parlait de la bande-son d'Euphoria qui est dingo, quoi. De fait, tu sens qu'ils ont eu tous les droits de toutes les chansons qu'ils voulaient, quoi. Dans les fictions françaises, c'est pas pareil, quoi. Ouais, les scénaristes, ils disent, pour illustrer cette scène, ce serait trop bien d'avoir tout oublié d'Angèle. Et au final, dans le film, il y a le Yuki de Richard Gauthier. C'est moins cher avec le réel qui fait, on a rajouté un Jack Russell. Oh, pense propre. Généralement, l'esthétique, elle est maboule dans Euphoria. C'est entièrement filmé sur pellicule, quoi. Et c'est pas facile filmer sur pellicule. C'est tout petit, une pellicule. Il faut que la personne qui a les cheveux sales accepte qu'on la gratte. En dessous, je peux pas mettre n'importe quel. Alors pourquoi cette blague? Parce que j'ai trouvé que la précédente était vraiment marrante et je voulais pas rester sur mon petit nuage. Vraiment, j'ai un rapport très complexe avec qui je suis. C'est l'une des thématiques d'ailleurs traitées par Euphoria. C'est la quête de soi avec des ados qui se droguent pas mal et ça forcément. Ça me parle,
bah oui, évidemment.
Moi, j'avoue que la drogue adolescente, je connaissais pas. J'ai découvert ça bien plus tard dans une émission de radio à laquelle je participais. Avec la co-présentatrice qui me disait sans arrêt, faut que trop t'essayes! C'est vrai qu'avant les hilages, j'avais une mauvaise image du crack. Mais alors qu'en fait, il faut pas le fumer, il faut juste le sniffer sur un Doritos. Les hilages, c'est comme chez Darty, c'est important d'être conseillé par un professionnel. Et c'est vrai que ça se drogue beaucoup dans Euphoria. Ça fait beaucoup la fête aussi, tu vois. By the way, c'est un truc qui m'a toujours flashé dans la fiction américaine. C'est la fête chez les jeunes. Ça a toujours l'air ouf. Ils sont dans des énormes baraques, musique à fond. Trois mecs torse nu qui boivent un fût de bière via un tuyau. Avec tout le monde qui fait bois, bois, bois tout le temps. Il y a toujours quelqu'un qui cherche les toilettes à l'étage. Il ouvre une porte, ça ken. Tout le temps, ça ken derrière toutes les portes. C'est un calendrier de la viande, de l'avant de la ken.
Quoi. Un calendrier de la viande.
C'était très bonne.
Mais non. Moi, mon adolescence, c'était pas ça. Mon adolescence, la fête, c'est quand on pouvait regarder Ardisson jusqu'au blind test. Ça, c'était la fête. Moi, j'arrivais à l'école lundi matin, je faisais. Et là, il dit Monsieur Filippo Corti avec un accent. C'était le point de la récré. Tu faisais Euphoria dans mon école, il y avait pas deux saisons. Je te le dis franchement. Générique, on se fait chier quand même. Enfin, voilà, tout c'était réglé. Mais ce qui est vraiment génial dans Euphoria, c'est la subtilité du propos sur la génération Z, quoi. Ça parle d'une génération hyper complexe que tout le monde bâche tout le temps en permanence. Yo putain, ils sont accros aux réseaux sociaux. Ah ouais, nous pas. Genre, va voir l'insta de Nagui, tu vois. Moi, j'ai essayé de scroller tout son profil, je me suis fait une fibrose du pouce. Vraiment, c'est pas... En vrai, toute notre vie, on est des ados, quoi. C'est pour ça que c'est universel, Euphoria. Tu vois, moi, depuis que j'ai 17 ans, j'ai l'impression d'avoir 17 ans. Juste moins de boutons. Merci le papier Emery. Et moins d'espoir, quoi. Tu vois, à 17 ans, t'es tourmenté, mais il te reste d'espoir. C'est pour ça qu'on est tous jaloux d'eux, en fait. C'est ça le truc, en fait. Je pourrais développer une théorie de. Flemme.
Non. Allez, bonne émission. Merci, Guillermo. Bravo,
on s'attire que tout va s'arranger.
Tu sais, après Guillermo Guise, je me dis, on se dit que tout va s'arranger, c'est pas possible. Profite, cette espèce de carpe diem aussi. Et puis, il y a des hauts et des bas, parce que autant vous parlez de couleurs, mais je sais aussi que les clips, la pochette, le art design, tout ça, c'est, j'imagine, systématiquement vous qui vous mêlez, en tout cas, à défaut de décider. Les montagnes russes, c'était ce par quoi vous étiez passé, justement, des hauts et des bas?
Ouais, complètement. Ça me parlait à fond, cette image. Et j'avais depuis longtemps cette idée d'être dans un roller coaster, parce que je trouve que c'est à la fois super joyeux, et en même temps, c'est plein d'angoisse, c'est plein de questions. Puis à l'arrière de l'album, on voit qu'il fait des loopings et des trucs absolument abominables.
Oui, enfin, qui dessine surtout 95. Qui dessine,
voilà. Et c'était un peu ça l'idée, c'était de ce chemin de vie, un peu ce train de vie, comme on dit, où il y a des hauts, des bas, et où en fait, on passe par plein d'émotions, quoi.
Et donc avec vous, ouais. D'ailleurs, plusieurs fois vous, dans tous vos états, justement.
Ben ouais, parce que ça, c'est mon petit côté mélomanie.
De la Game Boy.
J'aime bien me voir partout, quoi. C'était...
Dans tous les états, dans l'état d'angoisse, de rire, de liberté ou d'inquiétude. Et le making-of de la photo est extrêmement drôle, parce que vous avez vraiment eu peur.
je suis vraiment allée dans un roller coaster pour me dire que ça pouvait pas que être une jolie photo photoshopée tout ça et que donc ouais je suis partie à Walibi.
Ou Walibi, j'en suis babar, bien sûr.
Bah, voilà. Mais ça va pas.
Mais on adore Walibi. Ouais. Quand j'étais petite, j'adorais Walibi.
Pardon, c'est le slogan du parc ou c'est oui, toi c'est qui viens de dire ça? Non, je me suis dit,
c'était la pub. Pas du tout.
La pub, c'était
j'adorais y aller quand j'étais petite.
Bah voilà, j'y suis allée à Walibi et voilà. J'ai un peu moins rigolé parce que j'étais toute seule dans ce train prendre la mort.
En train d'hurler.
Voilà.
Je sens les désolés là.
Je pense que Walibi va revenir à la fin de l'émission, t'inquiète pas. La musique dans la vie d'Angèle, on va s'intéresser aussi à ce que vous écoutez. J'ai dit en ouverture, et vous le dites d'ailleurs dans le doc, dans les années 2000, vous écoutiez Hélène Segarra.
Ouais.
Vous aimiez dans cette chanson, c'était la prouesse vocale ou c'était les paroles justement?
Oh là là, tout.
Et ce clip?
J'aime tout, le clip sur la plage avec une robe de princesse et tout. non, j'ai gros coup de foot pour Hélène Segarra quoi. Inexplicable, parce que tout ne s'explique pas.
Et de la réentendre là, vous voyez ado, vous avez quelle image ou quelle couleur?
Je me vois enfant, j'avais trouvé on avait trouvé avec ma mère au marché Opus une sorte de robe de communion, je crois. Et moi, je trouve que ça faisait robe de mariée. Et alors, c'est très bizarre ce que je veux dire. J'étais enfant, je faisais des tours dans ma chambre comme ça, en pleurant, en écoutant Hélène Segarra. Parce que je me sentais prise de vraies émotions d'adulte.
C'est carré, en fait.
Mais vous aviez pas ça, parfois, des émotions très fortes, inexplicables, quand t'es enfant et que tu... T'es dans un film, quoi. J'étais dans un film.
Daniel a souvent eu des petites filles en robe de mariée qui dansaient dans sa chambre.
Nagui, ça t'allait très bien.
Je l'ai vu arriver, je me suis dit, va pas y aller.
Si. Faut pas ça. Dans ces cas-là, faut pas s'arrêter. Guillaume m'a dit, t'es dans la merde, vas-y, fonce.
On est en 2000, on a parlé de Laurence Bibeau, votre maman, et moi j'aime bien équilibrer les comptes. Il y a votre père aussi, Marca. Bah ouais, faut quand même en parler.
Évidemment.
Et oui.
Ma vie prochaine. Rester en toi de celle que j'aime.
Ça c'est clin d'œil à Marca.
Et quand on parle de votre enfance, forcément, il y a la bande-son de papa, il y a la bande-son de maman. Comment est-ce qu'ils se rejoignent tous les deux musicalement ou pas?
Ah, pas tant que ça. Ouais. Et d'ailleurs, mon père étant chanteur-musicien, on peut se dire que c'est lui qui a fait toute ma culture. Lui, je pense que comme il faisait de la musique tout le temps, il y avait cette culture de la musique et de l'oreille et que je crois que...
Et des cours de piano, il insistait pour la perfection.
Oui, alors oui, mais c'était plutôt ma mère qui m'y emmenait. Je crois que ma mère avait plus de patience et d'ailleurs préfère beaucoup plus le taxi. Le classique. Ah. et c'est ma mère qui m'a fait toute ma culture classique. D'accord. Donc finalement, il y a vraiment eu des deux, quoi.
Et quand on parle de l'éducation, il y a eu un collège catholique un peu difficile.
Ouais,
c'est une expérience compliquée où vous vous retrouvez dans un environnement où je crois que c'est votre père qui pensait que c'était important d'avoir une éducation un peu plus stricte.
Ouais, je pense que mes parents, ils ont pas trop été dans des écoles, ils ont pas vraiment fait de parcours scolaire très exemplaire. Et je pense que tous les deux se sont dit, c'est bien, nos enfants, oui.
On va se rattraper.
Mais non, en fait, mauvaise idée parce que on n'avait pas cette fibre de l'école et de la concentration.
Mais ça
et mon frère
après.
Était passé avant et donc dans cette école mon frère était passé puis a été viré de cette école et donc moi je suis arrivée après et ça s'est très mal passé parce que je me sentais incomprise, que quand je disais que mes parents étaient artistes on me regardait avec des yeux doux genre oh la pauvre, c'est chouette, ah c'est
saltimbanque,
les fous du roi,
c'est
quoi.
Ça.
Et puis voilà. Puis
mais en même temps, vous avez découvert la scène. Il y a plein d'images où on vous voit sur scène avec Roméo Elvis et qui est son vrai prénom d'ailleurs, parce que Laurence explique aussi le choix des prénoms. C'est extrêmement drôle le côté. Je vais choisir des prénoms forts. Et pour vous, elle avait pensé à Cléopâtre.
Ouais. Je l'ai appris en voyant le docu. Qu'est-ce que c'est que ça? On est bien avec Angèle, finalement. Cléopâtre, chaud.
Pas facile, quand même.
Alors, en tant que natif d'Alexandrie, je vous demande d'avoir un peu de respect pour Cléopâtre.
Merci. Justement.
Trop de respect pour porter son nom, c'est ça. En 2014, vous écoutiez.
Je
le jazz, parce que vous faites des études de jazz.
Ouais, exactement. Et c'est vraiment marrant parce que j'ai dû me replonger dans ce que j'écoutais année par année. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais très obsessionnelle parce que j'écoute toujours par période des choses en boucle. Et quand je suis rentrée dans cette école de jazz, bah, je connaissais absolument rien. Je me sentais vraiment nulle et j'ai l'impression d'être une imposteuse, quoi.
Vous jouiez toujours du piano?
Je faisais du piano, mais je venais du classique.
D'accord.
Et je me suis inscrite dans cette école un peu comme ça, puis je me suis rendu compte, ah ok, ici ça rigole pas, c'est du jazz et tout. Et donc j'ai un peu tendu l'oreille, écouté ce que les gens écoutaient, puis je me suis fait des grosses playlists. Et c'est comme ça que j'ai commencé, puis j'écoutais que ça, quoi, pendant 2 ans.
Et en quoi ça influence votre manière de chanter?
Ah, ça l'influence énormément parce que je crois que dans les pays francophones, on apprend à chanter de façon peut-être, moi j'ai tendance à dire très premier degré. Et en fait, peut-être justement trop proche du classique. Et je crois que le jazz, bah, qui vient vraiment de l'Amérique, ça nous apporte un truc peut-être plus nuancé. Et moi, j'ai vraiment l'impression que entendre du jazz, écouter beaucoup de Ella Fitzgerald et des chanteuses Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Etta James, ça m'a... C'est des voix qui n'ont rien à voir avec les miennes et ni avec la musique que je fais.
Mais elles sont dingues. Elles,
je crois que ça m'a...
elles filent les poils, quoi, ces voix.
Ouais, et puis, je sais pas, dans l'interprétation, dans même la façon de jouer, puis même dans la composition, parce que le jazz, ce qui est cool, c'est que ça, il y a toute la question des tensions, et donc on peut, dans une composition, apporter beaucoup plus de richesse.
Et de la douleur, pardon, mais les interprètes que vous citez, quand elles chantent, les paroles, et quand on connaît leur histoire, et je ne sais pas si vous avez vu Respect et toute l'histoire d'Aretha Franklin.
C'est des histoires incroyables.
Truc de dingue, de souffrance justement, de coups reçus, de viols subis, et on comprend mieux quand elle, l'interprétation qu'elle peut faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer par ces horreurs de la vie pour...
Non, mais c'est une musique de l'émancipation, c'était un titre, c'est
absolument.
Des musiques qui... Il y a aussi un truc très oriental chez vous. Est-ce que je tombe complètement à côté ou pas?
Mais non, c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit, mais c'est totalement inconscient.
Cléopâtre, quoi.
Ouais. Mais c'est peut-être parce que j'ai écouté, moi, Hélène Segarra, il y avait un peu dans des compositions.
Non, c'est vrai.
Et puis, c'est très inconscient et... Mais oui, certainement. Après, je pense que j'ai écouté tellement de choses différentes qu'il doit y avoir plein de choses qu'on peut retrouver.
C'est la fin de sa phrase.
Elle a mis un point. Je vous ai regardé en mode.
Qui a joué un 2-3 soleil là?
Il manque un mot ou deux.
Je me suis assise sur la télécommande.
La prochaine,
le ton de ma voix a pas dit c'est la fin de la phrase. Je suis restée en l'air.
C'est drôle. C'est drôle, j'adore.
On va vous attendre.
En 2017, vous écoutiez MC Solar. De la mode.
Quel est son nom de code? 2017, ce sont les premières parties, votre premier duo avec votre frère, votre premier single. Juste avant, pour ceux qui n'avaient pas suivi un peu votre success story, c'est que vous aviez posté sur Instagram des vidéos en train de chanter. C'est ce qui vous a fait connaître à Bruxelles. Ça a
notamment
créé vraiment...
la reprise, de Dick Hanegaard.
Les léons, les noms du Dieu, sublime décadence, la danse dépense, ministère de la
Voilà, ce qui a fait que tout d'un coup, il y a une grosse communauté qui est venue derrière vous, et la suite, on la connaît davantage. Vous avez assuré les premières parties d'IBI, on a parlé de Damso, mais on n'a pas parlé d'IBI aussi.
C'est vrai, exactement au même moment d'ailleurs.
Les filles,
Comment ça s'est fait, cette rencontre, là aussi?
Il y avait beaucoup moins de dates qu'avec Damso, mais c'était chouette parce que c'était... En fait, c'était les mêmes salles. Et donc, je me souviens, par exemple, d'avoir joué 2 fois de suite à Strasbourg. J'ai envie de faire une tournée de ouf. Parce qu'en fait, je faisais plusieurs premières parties en même temps.
Et tout ça, c'est Sylvie, votre manageuse, que l'on embrasse au passage,
qui
nous écoute.
Et Nicolas.
Et
j'avais déjà tourné. C'était vraiment tout début où je commençais avec des tourneurs. Donc, je commençais déjà...
Ça veut dire qu'il fallait toutes les dates possibles, il fallait les faire, même si c'était justement dans la même ville ou le même soir et qu'il y avait une pression?
Je pense qu'il faut franchement prendre tout ce qu'il y a à prendre au début, en tout cas. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai fait et je ne regrette pas parce que je crois qu'au plus on enchaîne les expériences, au plus on peut se renforcer parce que c'est un métier qui s'apprend en faisant, en fait. On peut faire des écoles, mais on ne peut pas l'apprendre autrement qu'en étant sur scène et en se prenant des murs et tout.
Et en 2017, il y avait... Le duo, donc.
Très oriental aussi.
Oui, ouais, c'est vrai.
Et puis... Je voudrais juste savoir, avant de revenir évidemment sur votre album, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête lorsque vous montez sur scène la première fois, que vous vous faites insulter de tous les noms, mais comme c'était pas permis, oui, y avait de quoi sortir en pleurant. Et,
je l'ai fait, hein.
Et je dis ça, et que l'on soit un garçon, que l'on soit une fille, peu importe, oui. Enfin de se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous êtes sorti de scène, et que le lendemain vous revenez, et que vous chopez tout le monde, et que vous retournez finalement la haine que vous receviez en positivisme.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, c'est vrai qu'on a cette impression que c'est de la haine. Je crois que c'est plutôt de l'inconscience.
De la méconnaissance, ouais.
Ouais, je pense que c'est que quand on est dans un public, peut-être qu'on n'a pas toujours conscience que les gens qui sont sur scène ne sont pas des gens tout puissants. Et c'est pas parce qu'ils sont sur scène qu'ils sont totalement inhumains et surtout prêts à tout. Et surtout, je pense que souvent les artistes sont des gens très tourmentés et très sensibles. Donc,
ouais, quand on se fait insulter, on n'a pas toujours le recul de se dire le pauvre, il m'insulte parce qu'il.
Non, mais c'est l'effet du groupe.
De toute façon, j'avais pas le temps de réfléchir à ça. C'est plus que je me disais, en fait, faire marche arrière après une date, alors que je prépare ça et que c'est chouette et que ça c'est censé être cool et que je m'entends bien avec Damso, que j'aime sa musique, etc. Est-ce que vraiment j'ai envie de partir? Oui, j'en avais envie, j'y ai pensé. Et en même temps, je sais pas, il y a une sorte de truc de la dernière chance, quoi, de me dire bon, allez, mais je me souviens être presque en pleurs dans ma loge. 5 minutes avant de monter sur scène, le deuxième sort, en me disant non, j'ai pas envie, ça va pas bien se passer. Que Sylvie vient un peu comme ça, elle marche sur des yeux, moi je pense qu'il faut y aller, et que je me dis je vais tenter autre chose ce soir, quoi. Et qu'en fait parfois c'est une question aussi de, je pense que tu peux tout assumer une fois que tu y crois toi-même, et après tu peux te prendre des murs et tout, mais je crois que moi je suis montée sur scène en mode ok, je tente autre chose ce soir, et je suis arrivée en mode bonsoir, comment ça va, je m'appelle Angèle, oui ouais, ok, vas-y, j'ai fait mes morceaux, et en fait ça s'est bien passé. Il y a eu d'autres concerts plus difficiles, et c'est juste que ça m'a vraiment forgé pour la suite, quand après j'ai fait des festivals où c'est pas des premières parties, mais où t'es avec d'autres têtes d'affiche, avec un public qui est pas là pour toi, et qu'en fait tu dois tenir un public. Et c'est en ça que je trouve qu'une première partie, surtout quand elle est compliquée, c'est ce qui est de plus intéressant, en fait.
Et comment on tient un public? C'est quoi un de vos trucs? Je sais pas, vous vous dites.
Oh là là.
C'est leur parler.
Déjà, c'est se concentrer sur les gens qui écoutent. C'est que dans un public, même encore aujourd'hui, c'est que il y a des trucs chimiques qui se passent dans des publics où tu sais pas pourquoi. Il y a des soirs où tout le monde est content, des soirs où tout le monde est plus difficile. D'un endroit à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un jour à l'autre, tout peut changer. Mais je crois que moi, ce que je fais, c'est que je capte des regards, je capte des énergies de ok, à tel endroit, ils sont là pour moi, ils sont très concentrés. À tel endroit, ils sont foufous, ils ont juste envie de faire la fête. Donc, quand je m'adresse à un public, je sais que je m'adresse plus à telle personne, à tel endroit de la salle. Et puis, quand il va falloir que ça danse, je vais m'adresser à eux. C'est inconscient, les gens ne le sentent pas.
Certaines personnes vont repérer ceux qui n'écoutent pas ou ceux qui font la gueule et ne vont jouer que pour cela en disant, toi, je vais te retourner.
Mais
toi,
ça,
il y a un moment où tu vas rire ou tu vas chanter aussi.
Ça aussi, évidemment, c'est un challenge qu'on se met en mode, ok, à tel endroit, ça bouge pas trop et c'est d'un peu les réveiller. C'est un truc de, je sais pas, en fait c'est un truc qu'on fait inconsciemment comme ça, puis ça marche pas toujours, hein, parfois parfois ça vient pas, et parfois le public est fou et toi tu te dis mais pourquoi, calmez-vous enfin.
Angèle, notre invitée avec 95, son nouvel album. Justement, Bruxelles, Aline Afanoukoué, bonjour.
Bonjour.
Merci Aline
bonjour
de venir.
Bonjour, bonjour Aline.
Bonne journaliste. Année. On la retrouve du lundi au jeudi dans la playlist d'Inter à 5h36 pour parler d'actualité musicale. Qu'est-ce qui se passe avec la Belgique? D'abord, ça a toujours été le cas ou
ça fait longtemps, en tout cas, que la Belgique nous propose des artistes.
C'est un vivier musical?
Carrément. C'est la terre promise de toutes les musiques. Il y a 20 ans, on parlait de la Belgique comme la terre du rock, avec Deus, c'est là qu'on a découvert ce groupe qui est devenu internationalement réputé. Ouais. Il y a eu aussi Zita Swoon, il y a eu Absent Minded. Je sais pas si vous vous rappelez.
Absent Minded, évidemment.
Je kiffais. Et ils ont un petit peu.
Non. Et c'était un groupe très dans l'esprit de Hills.
Carrément.
Voilà, c'est ça, j'adorais, ouais.
Tout ça, ça vient de la Belgique. D'accord. Après, et depuis quelques temps, on parle de la Belgique comme la nouvelle scène pour le rap.
Pourquoi la Belgique? Moi, j'ai toujours une explication, tu vas me dire si elle est bonne ou pas. Ouais. Parce que la Belgique se trouve justement au milieu, avec les influences aussi bien anglaises, suédoises,
la France,
ouais, c'est ça, au milieu de tout. Et ils arrivent à voir, peut-être d'ailleurs avec ce qui est un défaut par moment dit dans la chanson d'Angèle, c'est les deux langues, mais avoir aussi une musicalité de l'accent tonique.
Alors pour moi, c'est le phrasé.
C'est
et
ça.
D'ailleurs,
ouais. Chez Angèle, mais chez ton frère aussi, chez votre frère, Roméo Elvis, le phrasé est une signature vocale. On sait tout de suite que c'est Roméo qui est en train de rapper. Pareil pour Arnaud, pour Dick Hanegaard, il y a un accent, il y a une écriture, il y a une élégance. Et je trouve aussi beaucoup d'humour et moins de prétention peut-être que chez
carrément.
Voilà,
c'est un peu comme au football, ils sont
décontractés,
c'est ça, beaucoup d'humilité.
Non mais c'est sérieux, c'est la puissance,
c'est vrai que Guillaume peut juste rien dire.
Non mais il y a la puissance et la légèreté, l'élégance. Moi j'adore cette scène parce que en fait d'abord on y trouve aussi des grandes plumes comme Iliona qui va arriver avec un premier album
super
tout le monde veut travailler avec elle. Moment, Luce de Yakuza. En fait,
génial, Luce.
Bah ouais.
Génial.
Magnifique, au propre comme au figuré. Absolument. Et du coup, il faut vraiment compter avec la Belgique pour avoir, les nouvelles tendances, pour savoir un petit peu ce qui va cartonner demain. Et c'est pas du tout un phénomène de mode. Il n'y a pas de hype là-dedans.
C'est ça.
C'est vraiment un pays qui est défricheur, découvreur de talents. Et on devrait s'en inspirer.
Et moi, je dirais un peu plus. C'est pas négociable.
Et je crois. Non. Et Aline, je voudrais rajouter un truc à la musique. Belge, c'est le public. C'est le public belge et juste génial aussi. C'est-à-dire que quand on fait je me souviens d'un taratata que j'avais fait sur la place, la grande place à Bruxelles, il y a le feu, il y a le partage, il y a l'envie, il y a l'appétit, il y a la tolérance aussi de découvrir des gens qui ne connaissent pas forcément, ils écoutent et ils sont pas dans le jugement. Oh tiens, on est en retard. Ils sont pas dans le jugement de ce qui va se passer.
Oh, la détente totale.
Non, ils sont avec l'artiste et pas contre lui et c'est pas ça. Non plus en observation. Ils sont vraiment dans la fête et puis voilà, c'est la bamboche.
Déjà, de quoi tu parles demain?
Demain, on est quel jour?
Demain, c'est jeudi.
Jeudi, demain, Aline.
Demain, non, franchement, je sais plus.
Okay.
Ça
sera quand même à
5h. Ça sera super bien.
Et ça sera quand même à 5h. Ça sera à 5h36. Et sois précise, Aline, parce qu'à la radio, il y a un truc qui est important, c'est être à l'heure.
La mini deuxième partie de la bande originale, c'est maintenant sur France Inter. Profitez-en, ça ne dure pas longtemps.
Exactement, puisque à midi et demi, ça s'arrête normalement.
Voilà.
Merci, Laetitia Gaillet.
Vous n'avez pas envie de parler? Non, j'ai vraiment envie de parler.
Mais parle de quoi? Alors, quelle est la chanson que tu as envie d'entendre? Vas-y.
Bruxelles.
Ah bah ouais, voilà. Bruxelles,
je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Ne dis pas merci.
Mais non, mais si. Moi, j'aime beaucoup celle qu'elle a fait avec un photographe qui était une reprise de Brassens.
La chanson avec la photographe, une reprise de Brassens, Angèle?
Oula, je crois que c'est deux choses qu'on mélange, parce que j'ai fait une reprise de Brassens, et puis Charlotte a fait un clip de
voilà,
Brassens.
Voilà, c'est ça. Et ben j'ai adoré celle-là.
Ah,
voilà.
D'accord. Ah ben, je l'ai pas merci, je l'ai pas sous la main.
Là,
ah,
c'est rien, je suis des invités, je les connais même pas. Ah. Laisse-moi te chanter. Voilà.
Tu la connais, ma réponse?
C'est compris.
Laetitia Cagnier revient tout l'après-midi pour l'info, et à 13h, le journal de...
13h!
C'est la bande originale avec Léa Cadeau-Boudadi, Morgane Galignan, Guillermo Guillis, Tanguy Passion, Daniel Morin, notre invité, c'est Angèle.
Yeah.
Libre, ça représente vraiment les propos, la liberté d'ailleurs de la musique, et puis peut-être aussi la liberté de composer, de sortir un album sans se soucier de, j'allais dire du côté mercantile, est-ce que ça a marché ou pas, est-ce que c'est mainstream ou pas, tant pis, j'ai envie de faire ça, j'y vais.
Oui.
Il n'y a pas de concession.
Non.
Vous êtes à la tête de votre propre label en plus, donc il n'y a pas de patron au-dessus, donc ça rend les choses un peu plus détendues peut-être.
Alors oui et non, parce que c'est hyper cool, parce que c'est sûr que j'ai personne qui m'oblige et que toutes les décisions je les prends, et puis je suis conseillée par mes deux managers, mais c'est tout. Alors évidemment on demande de l'avis à gauche à droite, et puis il y en a plein de gens qui travaillent avec nous, mais ça justement parfois ça fait peur, parce qu'en fait ça fait que je peux pas... Parfois, je me dis, oh, si seulement j'avais un gros label qui disait tu fais ça, oui. Au moins je pourrais
savoir prendre la décision. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait hier, quoi.
Parfois, prendre une décision, en fait, c'est ça aussi. Et puis
c'est un peu comme le mariage, quoi. Soit on est forcé, soit on le choisit, quoi. Non, mais un truc de cet ordre-là, si on choisit pour toi, ça doit être plus confortable. Et en même temps, une fois que ça arrive, en fait, on préférerait choisir tout seul.
Ce que j'aime bien, c'est que t'es comme Angèle. Il faut savoir lire entre les lignes, parce que tout se comprend, tout s'entend. Je reviens à ce qu'a dit Morgane tout à l'heure aussi. Exactement. Et d'un coup, je me rends compte que lorsqu'Angèle nous avait fait le plaisir de venir dans Taratata, même dans le choix de la chanson et de la reprise, il y avait aussi un clin d'œil.
J'avais fait ça.
Mais ouais.
Ah ouais.
Sorte de pied de nez comme ça en disant mais on
je me souviens même pas que j'avais fait ça.
Bah écoute, je t'enverrai le DVD.
Si, ça me... Ah, c'est marrant.
Piano voix d'Aki Seguin, trop mignon.
Ah ouais, bah ouais, trop joli. Mais...
Tellement belle version en plus.
Incroyable ouais. Chanson aussi. Hein,
et Katy Perry qui avait mis le. Alors justement, tiens, Katy Perry avait mis le feu quand elle était venue aussi dans Taratata. Dua Lipa aussi, lorsqu'elles étaient venues. Et moi, j'aimerais savoir musicalement, parce que quand j'ai vu le doc, je me suis dit, il se passe un truc dans sa tête où elle se dit, est-ce que je vais vers le Beyoncé, Rihanna, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, je t'ai vu sur scène, il y a des chorés, il y a un jeu de scène, il y a vraiment, c'est du show. Extrêmement rythmé, programmé, organisé, répété, travaillé. Ouais. Et de l'autre côté, il y a cette intimité presque que peut faire Alicia Keys aussi, un piano-voix qui fait vibrer. Est-ce que la question se pose dans ta tête de savoir si tu veux aller vers un style de concert plus qu'un autre?
C'est dur parce que, en fait, quand en un coup, il y a plein de salles qui se remplissent et tout, il y a eu des moments où j'ai eu envie de me dire « Ouais, mais moi, je dois être à la hauteur ». Sauf qu'en fait, et ça c'est vraiment en le faisant pareil que je l'ai compris, et même pendant, enfin depuis le docu jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des nouvelles réflexions à ce niveau-là, c'est de toujours se dire, mais en même temps, on est là où on est parce que les gens nous aiment pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on n'est pas encore. Et donc en fait, c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui viennent me voir dans des zéniths que je dois forcément avoir un show comme Dua Lipa. Et ça m'a aidé de me le dire parce qu'en fait, à la fois j'adore l'idée de pouvoir me mettre en scène comme ça, de pouvoir avoir des danseurs, des danseuses, de pouvoir avoir plein de paillettes et avoir un gros show. Mais effectivement, finalement, moi, là où je me sens parfois le plus à l'aise, c'est quand même avec un piano et dans un truc intimiste. Donc de pouvoir faire les deux, c'est cool. Et ça a été important de détendre un peu la pression là-dessus, qu'une personne que je me suis mise quand j'ai rencontré Dua Lipa, qui est une personne incroyable et qui est une sorte de showwoman et qui sait absolument tout faire et qui est vraiment impressionnante. Et en même temps, je me suis dit, oui, mais je ne dois pas être Beyoncé, je ne dois pas être Dua Lipa, en fait.
Et je vais rester telle que je suis.
Je peux rester aussi telle que je suis. Et je crois que trouver s'inspirer de gens qui nous inspirent, qui nous entourent, c'est important. Mais c'est aussi important aussi de se dire, mais tout peut être dans la mesure par rapport à ce que je peux faire, quoi. Je ne dois pas forcément me dire. Mais je me suis beaucoup posé ces questions-là.
Mettre les mots juste sans peur qu'ils s'en offusquent.
Être les mots justes sans avoir peur, c'est exactement ce que fait Tanguy Passureau.
Hier, Daniel Morin a fait une chronique sur Jean-Michel Blanquer et c'était très drôle. Voilà, je me permets de le dire parce que dans cette équipe de grands pudiques ou de vieilles saletés, on ne sait pas, on se fait pas de compliments. Or, la vie à tout moment peut s'arrêter. Une Tesla qui part en sucette, une soirée avec Joe Star où vous lui marchez sur le pied. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette avec Martine Aubry où on meurt de vieillesse parce que personne n'a ri. La vie, c'est éphémère, comme le dit parfois Jean-Jacques Bourdin à ses collègues avant d'ajouter, du coup, je propose qu'on fasse l'amour. Ah, Blanquer, il a raison d'en parler, Daniel. C'est un champion, Blanquer, sur l'échelle de la fumisterie qui va de 0 à 10, il est à 127. Lundi soir, on apprenait qu'il avait rédigé le nouveau protocole sanitaire des écoles qui consiste à ne rien faire et à regarder le Covid faire de la Zumba sur les enfants. Depuis Ibiza, hein, cette île où l'été, une personne sur deux se met sous acide afin de supporter la musique de David Guetta. Après, en janvier, Ibiza, attention, c'est tranquille. Hein, la seule soirée mousse qu'il a dû faire, c'était dans son bain avec sa bouée et l'effigie de Jules Ferry. Alors, vous me connaissez, moi, que les gens s'amusent, je suis pour. Blanquer passe sa vie entouré de profs de lettres qui écoutent France Inter. À un moment, il se dit, voilà, sur la tête de ma barbe, carpe diem, je me mets en mode fun radio. Un ministre de l'éducation, c'est un enfer. Tu passes ton temps à composer avec des gens qui réfléchissent. Il vaut mieux être ministre des sports. Hein, Roxana m'a raciné à nous, elle utilise trois mots et se fait comprendre. Et le souci, c'est pas tellement Ibiza, si surtout le timing. En pleine crise sanitaire, il fait quoi Blanquer? Il se pose le boule dans le sable comme une tortue de mer sur le point de pondre, alors que les enseignants sont au front depuis des mois, à lutter avec des moyens dérisoires contre le Covid. 2 ans de pandémie, il n'y a pas 3 classes qui ont un purificateur d'air. Alors pardon, je vais être trivial. Du France Inter de Jacques Chancel, fuit. Mais Blanquer, ce sont pas juste ses doigts qui doivent sortir du croupion. Il a réussi, grâce à une souplesse extraordinaire, à placer l'intégralité de son corps à l'intérieur du sien. Ce qui fait que maintenant, il ressemble à un ballon. Hein, si pour ses prochains congés, il va au Qatar, on va le jouer lors du premier match du Mondial. En fait, s'il y a un moment où symboliquement un ministre doit être là, c'est maintenant. On peut se passer de bronzer pendant 2 ans. Il fait comment, Michel Houellebecq? En plus, ce protocole, Blanquer l'avait annoncé dans le Parisien, dans un article payant, puisque les enseignants, pour avoir leur directives, en fait, doivent acheter maintenant la presse. Hein, comme moi, quand je veux savoir si ça va avec votre femme, Nagui. Alors, j'ai lu Gala, ça a l'air d'aller. Alors, ceci dit, dans Gala, tout le monde va bien. Mmh. Hein, demain, ils peuvent sortir une double page sur Harry Habitant en train de cueillir des jacinthes avec écrit « Ça fait du bien cette petite pause, je me ressource ». Non, Blanquer, c'était une erreur de casting, ça arrive. Je rappelle que Georges Clooney a joué Batman. Hein, bon, bah là, c'est pareil. Blanquer, il était fait pour tenir une cabane à crêpes sur la plage et préparer des cocktails pour Castaner qui vient en août se défoncer la ruche comme une abeille de Montebourg. Une vie mieux que la sienne. Blanquer, mais quelle vie d'ennui. Hier, en plus, le Parisien, encore eux, en fait, c'est un journal quotidien, et sans lui, hein, révélait que ce week-end, il s'était marié. Alors, ça s'est passé à Miami Beach. Le curé Jason, jeune bodybuilder en slip, lui a dit Jean-Michel Malout, te casse pas à me dire que tu seras fidèle. On te connaît, un jour, tu vas gober un extra au Coachella Festival et tu vas sortir avec une fan des Strokes. Hein, on l'a tous fait. Et ça a été plié. Et c'est ça qui est fascinant. C'est que Jean-Michel Blanquer, sous ses allures de noble charentais qui tourne à la tisane au thym, est en fait un jet-setter de l'extrême. Un jour à Ibiza à faire du jokari, le lendemain, il se marie. Troisième mariage, il a la vie de Keith Richards. Enfin là, je pense qu'il est à Hollywood pour les répètes du film qui tourne avec Tarantino, Les 14 bras cassés, hein, le biopic de l'équipe gouvernementale. Ah bon, on a moins de problèmes avec Castex. Hein, le summum de sa rock'n'roll attitude à lui, ça a été de jouer au boule. Une fois, il a gagné contre Patrice Lafont, il a fait un dab. Alors, Jean-Michel Blanquer s'est marié avec Anna Cabana, journaliste politique, que lui appelle Copa Cabana, parce que ça lui rappelle ses fiestas au Brésil, hein, cette soirée avec Gisèle Bündchen, dans la villa de Neymar, où ils avaient cru qu'il avait fait un malaise, hein, parce qu'il tenait debout, il se tenait debout et qu'on avait
pas l'habitude.
Voilà, dans cette position. Alors, Blanquer, sachez-le, avait été marié une première fois de 91 à 2012. C'était le Blanquer ancien, le petit pépère d'avant les Nuits Blanches. Puis, une fois devenu célèbre, il est parti dans tous les sens. Il s'est remarié en 2018, divorce en 2020. Un comportement de star. Je veux dire, je suis sûr qu'il a aussi découvert qu'il était addict au sexe, comme James Franco. Elle est, il doit y en être à sa troisième désintox. Loana, on l'appelle au ministère. Bref, hier, Jean-Michel Blanquer, qui est soutenu par ses proches, DJ Snake, Philippe Corti, Régine et la discothèque de Stirwen à Carnac, a déclaré sur TF1 pour se défendre, je cite, Ibiza l'hiver, c'est pas comme l'été. Non, c'est vrai. Mais quand on est à de si hautes fonctions et qu'on zappe l'essentiel, c'est-à-dire la symbolique, ce que ça renvoie, c'est qu'on est hors sol quand même. Moi, quand je rejoins Nabila et Thomas à Dubaï pour faire la fête, hein, on brûle des bécherelles. Je dis que je pars en Bretagne sur les traces de Jean-Marie Leclésio. Et pourtant, je suis pas ministre. Mais mon point commun avec Blanquer, ce sont les profs. Ils nous écoutent. Et moi, je sais ce qu'ils aiment. Et ce qu'il n'aime pas.
Merci Tanguy Passion. On brûle des pêcherelles.
Tanguy, on te retrouve dans le Nord le 11 mars à Ayres sur la Lys et le 12 mars à Denain.
Oui.
On s'habitue toujours à tout, même aux peines, même aux gênes.
Superbe chanson qui part des douleurs menstruelles de l'adolescence jusqu'aux souffrances amoureuses aujourd'hui. Et c'est bien d'en parler d'ailleurs, parce que ça, je suis sûr, ça permet à plein de filles de se reconnaître aussi dans les chansons et de dire, ah, enfin, il y a pas le côté il faut se taire et rien dire sur le mal au ventre.
Ouais.
Et puis,
oui,
et puis plus surtout, profond, et c'est la mort aussi.
Oui, et puis on parlait de mort aussi.
Voilà.
C'était une drôle de pirouette que j'ai faite, mais de nouveau, évidemment, malheureusement, lien avec la période qu'on a vécue où la mort a été ultra présente dans notre vie. Tous les jours, on comptait le nombre de morts dans les proches. Il y a des gens qui sont décédés aussi, des gens qui ont perdu des gens. Enfin, c'était très, très anxiogène.
Donc, Angèle, ça veut dire que vous preniez des nouvelles, vous appeliez pour vous rassurer avec votre douce mamie qui était tellement adorable dans le doc.
Bah, par exemple, mais ça veut surtout dire que dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes qui ont perdu des proches. Ouais. Et donc, c'était assez violent et je trouvais que cette question, bah, du coup, de la mort et forcément du deuil, puisque c'est la question qui vient après.
Bien sûr.
Bah, c'est quelque chose que il y a que le temps qui peut aider, parce qu'en fait il y a pas de solution miracle et ça me faisait penser à toutes ces étapes de la vie quand on est jeune et qu'en fait on avance, il y a plein d'étapes qui peuvent arriver et finalement la seule chose à laquelle on s'habitue pas en fait c'est de perdre quelqu'un, parce que tout le reste bah on se dit bah voilà, il y a toujours moyen de s'habituer à tout, mais je pense qu'on s'habitue pas à perdre quelque chose ou quelqu'un quoi.
Angèle est notre invitée, 95 et son nouvel album, très bel album à écouter, réécouter, 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 parce que ce qui est bien, c'est comme une espèce de millefeuille, on en découvre chaque fois certaines aspérités, et puis comme vous l'avez remarqué, même quand elle oublie les reprises qu'elle fait, chaque fois les mots qu'elle choisit ou ce qu'elle raconte est quelque chose d'extrêmement précis, touché, et c'est pas fake, malgré ce que l'on peut croire aussi d'une génération Insta où on se dit ok, tout est avec des filtres, tout est dans l'apparence. mais vous êtes plutôt honnête dans ce que vous racontez.
Ouais, je pense.
Vous jouez pas un jeu en fait.
Non, je pense que ma génération on utilise juste les outils en fait qui sont là et qu'on connaît bien et qui sont peut-être dangereux. Et je pense que les générations plus jeunes, je l'espère, arriveront à mieux le gérer. Mais effectivement, je pense qu'on est très honnête.
D'autres événements dans la culture, Leïla Kadrodelli.
Quel est le point commun entre Stromae, Mika et l'impératrice?
Le même coiffeur.
Pas un nouvel album, pas la coiffure.
Des happenings, des trucs en télé.
Les dettes?
Non.
Ils sont à l'affiche d'un festival.
Ouais, absolument, et pas n'importe lequel.
Coachella.
Absolument. Wow. Coachella, Daniel, bravo. Trois artistes francophones, pardon, invités à Coachella. Ce sera en avril cette année. Les têtes d'affiche sont Billie Eilish, Harry Styles, Kanye West. En gros, comme ça, 125 000 festivaliers par jour.
Kanye West.
Un peu la classe internationale. L'international, justement, Angèle, vous y pensez? Comment est-ce que on fait voyager sa musique? Comment est-ce que on entre dans le cœur des gens aussi qui sont pas nécessairement francophones? En allant à l'étranger?
Bah, faut en avoir envie. Moi, c'était pas trop le cas, en fait. Alors, enfin, pourquoi pas plus tard?
Oui.
Mais je crois que moi, ma musique, je la vois beaucoup aussi pour un public qui peut comprendre les textes.
C'était pas le but avec Dua Lipa?
Dua Lipa, ça ouvre. Ouais.
Bah, en fait, ça, c'était une demande qui venait de Dua Lipa, donc moi, j'ai dit oui, oui, bien sûr. Mais après, j'ai pas cherché à avoir des feats internationaux dans mon album parce que. En fait, c'est déjà bien assez gros ce qui m'est arrivé dans la francophonie. Et donc certainement que oui, parce que sur le premier album, on me l'a beaucoup demandé, proposé des tournées à l'étranger. Maintenant, on va. Mais moi, je me sentais pas capable. Je faisais tellement de concerts déjà. Et puis finalement, je me dis heureusement qu'on l'a pas prévu parce qu'on n'aurait pas pu parce qu'il y a eu la pandémie après. Je me dis peut-être que voilà, aujourd'hui, c'est peut-être avec ce deuxième album plus le moment, je me sens plus prête, mais j'ai pas mis ça dans mes priorités.
Peut-être
parce
plus
que...
tard, quoi. Ouais.
Voilà, parce que je pense pas que j'ai les épaules, moi, psychologiquement. Je veux dire, c'est voyager, passer d'un pays à l'autre, et puis c'est aller chercher un nouveau public qui va s'intéresser à d'autres aspects que les textes, parce qu'ils vont pas forcément les comprendre. Donc ça va être déployer encore plus d'efforts, encore plus de moyens, encore plus de...
Ouais, ça veut surtout dire que musicalement, il faut dans les chorés, dans le jeu, dans le tempo, aller dans une autre piste qu'un piano-voix en disant c'est le texte qui va vous parler.
C'est
ceci
ça.
Dit, les textes traduisent aussi, et vous êtes trilingue, donc pourquoi
mais
pas
mais je pense que ça pourrait le faire. Je crois juste que jusqu'ici, je me sentais vraiment pas prête et je me sentais trop jeune. Et je crois que... me mettre ça en plus, j'aurais peut-être signé mon acte de fin, quoi, parce que ça aurait pas été possible de tout enchaîner.
Oui.
Aujourd'hui, pourquoi pas, mais je suis plus contente de me dire, ah, ok, Stromae, il nous représente en tant que belge et je le laisse. Vraiment, je pense que c'est lui le roi là-dedans.
La Belgique compte vraiment énormément. D'ailleurs, dans Bruxelles, je t'aime, il y a ce formidable clin d'œil où vous dites on n'a pas toujours gagné. Voici Daniel Morin. Le héros du jour.
Mes chers amis, mon héros du jour aurait pu être le crottin de Chavignol. Oui, parfaitement, le crottin de Chavignol.
C'est bon.
Pourquoi?
C'est bon.
Bah, tout simplement parce que le rédacteur en chef de cette émission, Jean-Baptiste Pétain, m'a dit hier, dis donc, ça fait longtemps que tu veux parler de fromage.
C'est
je crois
vrai.
Qu'éditorialement, on tenait un truc, hein, faut pas lâcher, Daniel. La France est un pays de fromage, et les Français aiment le fromage, et après, j'ai plus compris ce qu'il me disait, il avait mis trop d'apéricubes dans sa bouche. C'était inaudible. Alors, j'ai fait des recherches sur le crottin de Chavignol, et malheureusement, pas d'actualité dingue en ce moment du côté du crottin, pas plus du côté de Chavignol. Du coup, le crottin de Chavignol n'est pas mon héros du jour. Non, mon héros du jour est un concept aujourd'hui. Mon héros, c'est le bad boy. Oui, le bad boy. Bad boy, héros viril et sombre, moulé dans son blouson en cuir noir, qui, de la cour de récréation, aux voies rapides de nos autoroutes sur sa moto, faisait rêver les filles et les garçons en leur donnant envie de plaisir interdit et de soumission. Eh bien, ce héros ténébreux et peu courtois n'est plus à la mode. Il n'est plus celui qui faisait trembler les cœurs. Le nouvel héros, c'est le soft boy. Soft boy, garçon tendre qui laisse éclore son côté émotionnel, qui n'a pas peur d'exhiber une fragilité à fleur de peau, une sensibilité à fleur de cœur. Aujourd'hui, le soft boy, quand il croise un chat abandonné, il le soigne, il le caresse, il lui parle. Hier, le bad boy, s'il croisait un chat errant, il le pendait. Parfois, certains garçons sont à la croisée des chemins. Je prendrai pour exemple Guillermo Guise, ici présent, qui souffre de cette situation, de cet état d'entre-deux-chaises où valse son cul. Hier encore, Guillermo répondait au code viril et brutaux du bad boy. J'en veux pour preuve ce tatouage qu'il se fit faire à 15 ans sur le torse et qui dit en lettres gothiques « mort aux faibles ».
faible, F-E accent grave, B-L-E-S. Guillermo, qui un été sur la plage de Knokke-le-Zoute, après avoir bu 30 litres de bière, avait castré un berger allemand perdu. Attention, pas le chien, mais un homme dont la profession est de garder des chèvres au Tyrol. Après 12 ans de prison, aux côtés de Marc Dutroux, avec qui il vécut une romance aussi interdite que violente, c'est un Guillermo nouveau qui retrouvait la liberté. Aujourd'hui, mon Guillermo n'est plus le même homme, il a des bouffées de gentillesse qu'il a parfois du mal à contrôler. Maintenant, avant de taper un enfant, il dit « s'il te plaît ». Le week-end, il porte des pulls en cachemire couleur de pastel, il mange du quinoa, il écoute du Vincent Delerme en bougeant doucement la tête comme un bouddhiste. C'est devenu un soft boy. Mais bordel de merde, réagissons. Le problème, c'est que seul, on n'y arrivera pas. C'est pourquoi j'en appelle solennellement à notre ministre de l'Éducation nationale, des sports, et accessoirement, comme l'a rappelé Tanguy, DJ au Baléares. Jean-Michel, MC Blanquer, je sais que vous êtes un homme d'action, un homme de conviction qui connaît l'importance de l'impact de la testostérone. Aujourd'hui, sur le monde, place la menace du soft boy. Le soft boy, un homme déconstruit qui, au nom de valeurs humanistes, a laissé son perfecto et ses Santiago au vestiaire de la barbarie. Barbarie qui faisait de l'homme cet animal épanoui, toujours prêt à bondir pour faire régner la terreur. Terreur, signe de bonne santé de notre civilisation. Cet homme alpha en train de disparaître, c'est le bad boy. Et le bad boy, il faut le sauver, MC Blanquer. Il faut l'empêcher de sombrer. Si on ne veut pas un monde peuplé de Guillermo en survêt de pastel qui mange des graines et qui ressent la douleur des arbres qui suffoquent, agissons. Et là, j'en appelle au ministre. Monsieur Blanquer, il faut agir vite et fort. Interdisez le pastel à l'école. Imposez de la viande rouge à l'école tous les jours, en entrée, en plat, en dessert. Obligez les écoles à diffuser chaque jour dans la classe du vendredi, avant le week-end, orange mécanique. Enlevez les portraits de Jules Ferry, remplacez-les par des photos de Zlatan Ibrahimovic. Vive la République, vive la France, vive les sports de combat, les barbecues et Village People.
Merci. Angèle sera en tournée. Il y a Reims le 20 avril. C'est la première date, le 20 avril?
Ok. Tout à fait.
Bordeaux le 4 mai. Ensuite Toulouse, Poitiers, Marseille, Nice, Grenoble, Bruxelles le 16 mai. Mais déjà des dates ont été rajoutées. Le 18 mai, Nantes. Le 5 juin, au festival We Love Green. Le 30 juin, Arras. Puis Clermont-Ferrand, Albi. Les Francopholies de La Rochelle. Le 15 juillet, les Vieilles Charrues à Carré. Le 20 juillet, ça sera Nîmes, Angers. Ensuite, en octobre, Caen, Rouen, Amiens, Aix-en-Provence, le 25 octobre. Est-ce qu'il y a des guests et des featurings prévus sur scène? Vous y pensez ou ça dépend des endroits?
Je ne vais pas vous le dire, enfin.
Oh ben alors,
je ne dirai rien.
Un petit scoop, un petit cadeau. Si vous dites rien, c'est que c'est prévu.
En fait, malheureusement, on ne peut pas dédoubler des gens qui sont occupés. Ça serait génial. Moi, j'adore inviter des gens sur scène parce que je trouve que ça fait... Ça change un peu le show et ça permet plein de choses. Après, c'est pas toujours possible. Donc voilà, j'en dis pas plus.
Et puis parmi toutes les dates, faut pas oublier le 2 décembre à la Défense Arena à Paris. C'est l'une des plus grandes salles, voire la plus grande salle en Europe. Là aussi, on se dit, est-ce que c'est le même show ou il faut faire quelque chose de différent pour...
Je pense que l'avantage de ça, c'est qu'on aura déjà un an de tournée quasiment.
Carrément. Enfin,
quelques mois de tournée dans les pattes et ça, je crois que ça aide évidemment. Ce sera le même show, ce sera juste l'aboutissement. Moi, je me souviens quand on a fait 4 Bercy, c'était après quelques années quand même de tournée. Et c'était pour moi la finalité, un peu le summum, quoi. Mais après, je sais que la tournée ne sera pas terminée après ça, mais qu'il y a quand même un truc où c'est des salles énormes. Et donc, il faut être à la hauteur, ouais.
J'espère. Je ne sais pas si vous avez eu le sentiment d'avoir pu parler de tout et dire tout ce que vous aviez à dire. On s'est
fait
un truc à rajouter.
Plein de choses, hein.
C'était cool. Merci Angèle d'être venue à ce micro. Bravo pour cet album 95. Et puis on se retrouvera pour un taratata bientôt tous les deux. Et merci d'avoir aussi accepté cette invitation.
Merci de m'avoir invité.